Donc, nous voilà de nouveau réunis donc, pour la deuxième table ronde qui est intitulée « L'autopublication et les nouveaux processus collaboratifs auteurs publics ». Donc, je vais commencer par une toute petite introduction pour mettre un petit peu en contexte le sujet de cette table ronde. Donc, il y a toujours eu des interactions entre auteurs, autrices, lecteurs et lectrices, hein, dans le sens où il a toujours été possible, à différentes échelles, pour des lecteurs, après la publication d'œuvres, d'échanger avec les auteurs et les autrices, ou éventuellement, s'ils les connaissaient avant, de faire ce qu'on appelle des bêta-lectures, de participer aux discussions entre auteurs et autrices eux-mêmes. Et s'il existe des fans depuis au moins le XVIIIe siècle, l'évolution des technologies de la communication, de l'information et de la communication, Internet et réseaux sociaux en particulier, ont conduit à recomposer les frontières qui distinguaient autrefois nettement auteurs, autrices et lecteurs, lectrices, éditeurs, éditrices. D'une part, autrefois, il y a peut-être 10, 15, 20 ans, hein, il y a toujours la possibilité de passer d'un rôle à un autre et il existait déjà des connexions entre les uns et les autres, il y avait une assez claire définition de rôle entre les autrices, les éditrices et les lectrices. Les nouvelles technologies ont changé tout ça. Ces technologies permettent aux lecteurs et aux lectrices et aux fans de participer activement à la création des œuvres à divers moments de leur élaboration, par la facilitation que permettent l'Internet et les réseaux sociaux de la prise de contact entre les uns et les autres. Il y a aussi par la technologie une démocratisation de l'accès aux outils de publication. C'est devenu beaucoup plus facile, hein, non seulement, disons, de contacter des auteurs, mais une fois qu'on a les textes, de pouvoir les éditer, les publier sous des formats papier, avec des couvertures, etc. Donc ces outils qui étaient autrefois, bon, comme plein d'autres outils, hein, ça marche aussi pour la musique, mais qui étaient, qui demandaient vraiment une expertise, spécialisée, d'avoir bénéficié d'une formation professionnelle sur le tas. Là, c'est des outils qui sont plus facilement accessibles. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, ça demande quand même du travail, et je pense que Chloé aura peut-être l'occasion de nous en parler. Mais on peut beaucoup plus facilement qu'avant se positionner pour publier des œuvres. Et donc, on a vu une augmentation du nombre d'œuvres auto-publiées et une augmentation des situations où les auteurs et les autrices ont pu collaborer avec des lecteurs, voire on peut maintenant voir des œuvres collaboratives à plus grande échelle qu'avant se mettre en place. Et donc tous ces phénomènes contribuent à une réinvention, voire au brouillage des frontières d'autrefois. Voilà. Et donc, c'est sur ces questions que les quatre intervenants et intervenantes de notre table ronde vont nous aider à mieux comprendre un petit peu le renouvellement de ce paysage de l'écriture et de l'édition. Donc, nous accueillons Mélanie Bourdard, qui est donc chercheuse à l'Université Bordeaux-Montaigne, et en particulier spécialiste des fan studies. Nous avons aussi à côté de Mélanie, Alexandre Le Forestier. Ils présenteront plus précisément eux-mêmes, mais Alexandre Le Forestier qui est entrepreneur, je pense qu'on peut dire ça comme ça, entrepreneur après des études de musicologie. Il a fondé en particulier la célèbre plateforme Cobuz,
française assez charme, ouais. Prononcée comme vous le souhaitez,
qui propose des fichiers de haute qualité et c'est, voilà, c'est une plateforme de renommée internationale. Mais donc il va plutôt être là pour une nouvelle plateforme qu'il a créée, qui s'appelle Panodyssée et qui est exactement dans notre thème de l'écriture et de la lecture. Ensuite, nous avons Chloé Garcia, qui a une formation d'ingénieur, qui a aussi travaillé comme ingénieur, mais qui à un moment a décidé de basculer vers quelque chose qui lui plaisait plus, et qui est l'écriture et aussi l'édition. Et donc elle a fondé en particulier les éditions Cordes de Lune, et elle va nous parler un petit peu de son expérience, hein, d'entrante dans ce, de récente même, entrante dans cet univers. Et enfin, nous avons Léa Como, qui elle a un peu la double casquette, hein, puisqu'elle est elle-même initialement autrice, elle a connu un certain succès, même en tant qu'autrice Wattpad, mais elle est aussi, depuis l'année dernière, elle a décidé de prendre l'autre casquette, donc elle est Icare à elle toute seule, et justement donc elle a entrepris une thèse dans le cadre d'Icare sur la question, sur ces questions-là d'utilisation sur Wattpad en fait. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose pour commencer, je vous ai présenté brièvement, mais je vous propose peut-être de vous présenter un petit peu comme pour la table ronde précédente, de vous présenter un peu plus en détail et expliquer quel est votre parcours et en gros comment vous arrivez ici. Donc il y a des micros, je ne sais pas dans quel ordre vous pouvez aller. Dans le plus total des ordres. Il faut appuyer sur un bouton pour que ça marche.
Est-ce que là, c'est bon. Bonjour à tous. Alors effectivement, comme Sylvie l'a dit, moi j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait l'UTC, donc l'Université Technologique de Compiègne. Et ensuite j'ai fait un master en instrumentation optique à laser avec le laboratoire d'astrophysique de Marseille. Donc je partais vraiment pour des projets aérospatiaux. Donc j'ai travaillé pour certains grands groupes du domaine. Ça a été compliqué, la créativité dans ces métiers-là n'est pas du tout mise en avant, notamment dans les métiers, en tout cas d'ingénierie, pourtant c'est ce que je pensais. Ça a été compliqué pour moi, il y a eu un burn-out, beaucoup de questionnements, et je suis revenue du coup à une passion que j'avais depuis petite, aidée par des parents qui lisent énormément, notamment dans l'imaginaire, donc j'ai voulu vraiment me remettre à la lecture, à l'écriture, et j'ai pu finir comme ça plusieurs romans. J'ai été éditée, et certaines expériences, notamment dans le milieu éditorial, se sont plutôt mal passées. Je n'ai pas été en tout cas entendue, ça a été plutôt une expérience qui a porté ses fruits finalement, parce que j'ai créé ma propre maison d'édition. Je voulais vraiment apporter des valeurs spécifiques, de partage, d'entraide. Chez Cordes de Lune, on partage tous les bénéfices en deux parties, entre l'auteur et l'éditeur. On considère que l'éditeur est aussi important que l'auteur, qui est quand même à la source de tout ce qui se fait dans le milieu. Voilà, je ne voulais plus, même moi en tant qu'autrice, être vue seulement comme une commerçante. Je voulais vraiment être vue comme une autrice à part entière. Et chez nous, on travaille chez Cordes de Lune, du coup on a l'impression à la demande pour éviter justement tout stress aux auteurs. Ils n'ont aucun objectif de vente. Ils peuvent rester seulement des créateurs, des auteurs. On ne les oblige pas à vendre leurs livres, à faire des salons, des dédicaces. Ils peuvent rester vraiment artistes. Certains sont même très introvertis. Donc ils n'ont vraiment aucune obligation. C'est ce que je voulais partager avec cette expérience-là. Alors c'est compliqué, c'est l'entrepreneuriat aussi. Je ne vis pas de mon activité actuellement parce qu'il faudrait faire énormément de ventes pour que ça fonctionne vraiment. Les coûts, les charges en illustration, en communication, en promotion, en réseau, etc. Ça va vite, ça va très très vite. Donc c'est un domaine surtout que je pratique par passion. Voilà, l'écriture, la lecture, le partage et l'entraide.
Bonjour à toutes et tous, merci pour votre invitation. Donc, je suis un entrepreneur de la culture du numérique, effectivement je viens du monde de la musique, j'ai produit de nombreux albums de jazz en particulier, j'ai été distributeur de disques, et j'ai effectivement créé une plateforme de musique en ligne, mais surtout en fin de compte, de à peu près 1995 à la création donc, de Panodyssée en 2019, j'ai accompagné la transition d'usage d'un monde d'écoute musicale qui reposait sur un objet qu'on archivait bien souvent dans sa bibliothèque, dans son salon, et nous en étions fiers de notre discographie, donc à ces nouveaux usages numériques baignés de plateformes et de réseaux sociaux dont nous avons déjà beaucoup parlé ou évoqué ce matin. Donc effectivement, venant des notes, je me suis dit, ayant été déçu beaucoup des réseaux sociaux, je me suis dit que les mots ne valaient pas moins que les notes. Et donc en 2019, je me suis posé une question toute simple, puisque des plateformes effectivement d'écriture existaient bien souvent en outre-Atlantique, Wattpad, pour citer Medium dans une autre catégorie donc, de publication. Donc je me suis dit, est-ce qu'en fin de compte, je peux, après avoir créé mon service de musique en ligne idéal, créer mon réseau social idéal dédié à l'écriture, à la lecture. Naturellement, comment dire, lorsque j'en ai parlé, on m'a bien souvent pris pour fou, mais j'en ai, assez souvent l'expérience, et c'est ce que nous avons fait. Donc nous avons imaginé, en fin de compte, un espace numérique pour nos villes numériques qui vraiment est dédié au format de contenu écriture et visuel. Et j'insiste, puisque comme chacun sait ici, il n'y a pas de bon livre sans belles illustrations, dessins, photographies. Bon. Et donc Panoussé est cet espace avec un mot important, mais qui n'est pas qu'un mot, qui est surtout des processus, qui correspondent à des processus et des actes éthiques. Parce que bien souvent dans le débat public, nous parlons, nous entendons donc ce mot éthique, et bien souvent, j'enrage un petit peu parce que cette éthique qui, dans ce monde numérique, en tout cas en ce qui concerne le Panoussé, représente des éléments clés autour de la propriété intellectuelle, autour de la protection du public, autour de la transparence, autour de l'équilibre des business models économiques. On ne peut pas dire que nos amis américains aient été très équilibrés dans la construction des modèles économiques dans les industries culturelles et créatives. Voilà. L'éthique, ce sont des processus et des actes. Et c'est pour ça que si vous allez sur Google ou dans une IA pour lui demander ce que c'est Panoussé, vous allez très rapidement voir que c'est un réseau social éthique dédié donc à la culture littéraire pour créer ces nouvelles formes de médiation entre les publics, et j'insiste, nous avons beaucoup parlé des jeunes ce matin, c'est très important, toutes générations confondues, ce qui représente aussi d'autres défis, d'autres challenges, et naturellement les créateurs et tout type de créateurs, que ce soit des professionnels, des non-professionnels, des amateurs, des débutants, comme je le suis par exemple, je suis un écrivain débutant. Voilà. Je passe la parole donc à ma voisine de droite, c'était pour vous présenter en quelques mots Panoussé.
Merci. Donc je suis Mélanie Bourda, professeure des universités à l'université Bordeaux-Montaigne et je travaille en particulier sur les publics fans effectivement et autour des séries télévisées et particulièrement autour des séries télévisées américaines. Alors c'est arrivé comment ça, le fait que je travaille sur les fans? Donc j'ai fait une thèse qui était sur l'interactivité télévisuelle. Il y a longtemps maintenant, sur l'interactivité télévisuelle et j'avais en particulier travaillé sur, en toute objectivité, la meilleure série du monde, qui est Battlestar Galactica, et n'est-ce pas, meilleure série du monde. Et merci, Sandra est d'accord avec moi.
Non, c'est pas
la...
C'est pas
vu, mais... Ah, bon, d'accord. Okay. On a discuté. Ouais, bon, ça va, alors. Et j'avais travaillé sur le public fan de la série Battlestar Galactica. Et j'avais découvert comment fonctionnaient donc, les communautés de fans, les dynamiques sociales qui se mettaient en place, les dynamiques d'organisation qui se mettaient en place dans ces communautés de fans, et en particulier ce que faisaient les fans à partir de la série. Et notamment, et on va y revenir, ça a déjà été évoqué, mais l'écriture de fanfiction. Et qu'est-ce que ça veut dire donc d'écrire des fanfictions? Qu'est-ce que ça permet au public de raconter sur eux, de raconter sur la série, mais aussi comment ils travaillent ensemble autour de ces fanfictions? Et depuis, je travaille donc sur ces publics fans, et ça me permet de voir toutes ces dynamiques à l'intérieur de communautés actives, de réception active. Et en particulier, là, je travaille sur un projet qui autour des séries télévisées pour adolescents et adolescentes, et sur les représentations et les réceptions des sexualités dans les séries dites pour adolescents et adolescentes. Et c'est intéressant de savoir comment ces publics jeunes s'emparent des narrations et s'emparent des personnages aussi, hein, pour produire des contenus originaux, et en particulier des fanfictions, et comment donc ils vont travailler ces représentations des sexualités et comment ils vont raconter des choses sur eux-mêmes.
Donc voilà un peu en gros pour présenter, puis on ira un peu plus en détail plus tard.
Bonjour, merci beaucoup pour cette journée. Donc moi je m'appelle Léa Como et aujourd'hui je suis doctorante contractuelle chez ICAR. Et je travaille notamment sur l'influence du numérique sur le monde de l'édition en passant par le prisme de la dark romance, et notamment la dark romance c'est l'influence de Wattpad dans tout ce phénomène. Pourquoi aujourd'hui j'arrive là? Déjà parce que effectivement, lors de mes 15 ans, j'ai écrit sur Wattpad, ça s'est très bien passé. Et j'ai été contactée par Hachette à l'époque pour publier mon roman. Donc j'ai été publiée ensuite par un éditeur. Mon expérience a été particulière aussi. Et ensuite, je me suis dit, ok, je veux devenir éditrice. Donc j'ai continué ma formation. J'ai fait une formation à la Sorbonne pour devenir éditrice. Et j'ai été éditrice, apprentie éditrice pendant un an et demi chez Hachette. Après ça, je me suis dit, je ne vais pas devenir éditrice. Donc je suis partie vers la recherche. Et l'année dernière, j'ai commencé à préparer mon projet de thèse tout en organisant des ateliers d'écriture dans des lycées, dans des collèges et aussi dans des foyers de l'aide sociale à l'enfance. Et en étant surveillante en parallèle pour être vraiment liée à tout ce public. Et ça m'amène à aujourd'hui et donc à cette recherche sur notamment le phénomène de la dark romance, parce que je trouve qu'il fait beaucoup parler, qu'il interroge énormément, qu'il crée donc des réactions extrêmement vives. Et donc j'essaie de travailler sur tout ce panel.
Merci beaucoup. Donc maintenant, j'ai prévu évidemment un certain nombre de questions. Et la première question que je vous propose portait sur l'électorat. Donc, comme je l'ai déjà évoqué dans mon introduction, il y a toujours eu des interactions entre lecteurs et auteurs. Il y a le cas célèbre de Sherlock Holmes où il y a un personnage qui décède sous la pression des lecteurs d'être obligés de changer. Alors moi, je me suis pas présentée, mais pour faire bref, très bref, je suis spécialiste de science-fiction. Et pour le coup, le milieu de la science-fiction, depuis ses origines, à travers le courrier des lecteurs, a toujours joué un rôle très important, en fait. Et souvent, les gens qui écrivent dans le courrier des lecteurs finissent aussi par se dire, pour faire des critiques, des remarques, dire « Ah, mais cette machine ne marcherait pas comme ça », etc. Enfin, il y a toujours eu des interactions et ils finissent aussi souvent, les fans, par devenir auteurs. Voilà, donc il y a toujours eu des phénomènes comme ça. Je pourrais aussi donner d'autres exemples dans la BD. Mais donc, j'aimerais... Pardon ? Oui, voilà. Non, mais c'est bon, je... j'en ai perdu ma question, du coup. Voilà, et donc je voulais savoir quelle différence vous voyez, est-ce que ça fait encore sens, disons, de distinguer un lecteur standard, un lecteur passif, un lecteur plus actif et un lecteur fan, ou est-ce que être fan, c'est être lecteur actif? Voilà, est-ce que, comment vous construiriez ces catégories d'après votre expérience? Et dans quelle mesure les technologies dont on a parlé ont affecté ou non ces différentes catégories de lecteurs. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être Mélanie qui est la mieux placée pour commencer à répondre, en tout cas, je dirais.
Alors, merci pour la question. Alors, à mon sens, ça a été dit hein, dans la première table ronde, il n'y a pas de lecteur passif, bien évidemment. Le simple fait de lire est déjà une activité. Mais effectivement, si on se place du côté des fans, puisque moi c'est plutôt de ce côté-là que je vais parler, hein, si on se place du côté des fans, ce qui est intéressant de voir, c'est effectivement ce qu'ils font ensuite de ces lectures. Alors encore une fois, ce qu'ils font des narrations, ce qu'ils font des personnages, et comment ils s'en saisissent, et ce qu'ils vont ensuite travailler, et souvent ensemble. Qui dit fan dit communauté. On est rarement un fan seul et isolé, hein, voilà. Donc on travaille dans une communauté, et même le simple fait, Magali l'a dit tout à l'heure, hein, de produire et d'écrire de la fanfiction, c'est un travail collaboratif. Parce qu'il y a, on va en parler tout à l'heure, il y a des bêta readers qui vont aider à améliorer ou qui vont donner des conseils pour améliorer le texte, parce qu'il y a de la réécriture après. Donc voilà, c'est vraiment un travail collaboratif. Donc il n'y a pas de lecteur passif, il y a de l'activité de production, il y a de l'activité d'écriture. Alors, Là, aujourd'hui, on parle d'écriture, mais après, les activités de fans sont multiples. Hein. Il n'y a pas que l'écriture, bien évidemment. Donc, il faut bien comprendre qu'on se positionne dans une réception active. Et ça, je pense que c'est intéressant à voir. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que c'est tout ce qui va, c'est les imaginaires après qui vont être produits et ce qui va ressortir en fait de ces écritures. Parce que les fans vont travailler ensemble sur ces imaginaires communs, ils vont travailler ensemble sur la production de sens. Et c'est peut-être ça qui est aussi le plus intéressant à voir. Et ce que je voudrais souligner aussi, parce que ça me fait penser à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que bien évidemment aujourd'hui il y a les nouvelles technologies qui vont faire que ça va être plus facile pour déjà se rassembler en communauté, pour créer des communautés en ligne. Ça va être plus facile de partager ses écrits, bien évidemment, ça va être plus facile de trouver des relecteurs et de faire ce travail collaboratif. Mais les communautés de fans existaient bien avant la création d'Internet. Bon, tu l'as dit, autour de Sherlock Holmes, il y avait déjà des clubs, ils appelaient ça avant des clubs d'amateurs de Sherlock Holmes, donc ils se rassemblaient dans des endroits, ils discutaient sur Sherlock Holmes, mais ils se lisaient déjà les fanfictions qu'ils écrivaient déjà à l'époque. Donc ils se les lisaient de fan à fan et ils en discutaient ensuite. Mais si on veut remonter avant, on a parlé de Jane Austen tout à l'heure, mais il y avait aussi des fanfictions autour de Jane Austen. Alors pour Sherlock Holmes, ce qui est intéressant, c'est que c'était favorisé aussi par le fait que Conan Doyle publiait ses écrits dans des journaux populaires et qu'ils étaient diffusés mois après mois. En fait, il n'y avait pas le roman déjà, il publiait ses chapitres mois après mois dans des journaux populaires, ce qui fait qu'il y avait des temps d'attente, un peu comme les séries télé aujourd'hui en fait, hors plateforme de streaming, il y avait des temps d'attente qui favorisaient l'imagination des publics et qui favorisaient justement cette créativité, cette création. Donc, je ne sais plus qui a dit, c'est toi Magali qui a dit, phénomène de frustration un peu. Donc la frustration de l'attente faisait que les fans produisaient leurs propres récits et leurs propres écrits. Donc c'est pas nouveau, ça existait déjà, mais maintenant c'est favorisé, c'est un peu plus rapide on va dire, et c'est plus facile de travailler en communauté.
Alors moi je peux vous parler un petit peu de la vision de l'entrepreneur, du constructeur de plateformes et de réseaux sociaux autour de ces catégories d'utilisateurs en fin de compte. Puisque votre question est très précise, qu'est-ce qu'on observe ? Incontestablement, les créateurs et les lecteurs, je pense, sont deux catégories assez bien identifiées, bon, et pour lesquelles nous devons construire des processus numériques, ce qu'on appelle des expériences, au travers d'interfaces, au travers d'outils, au travers de services, qui sont complètement différents entre les besoins et les attentes des créateurs, des auteurs auto-édités, des blogueurs, de cette communauté créative qui a besoin donc d'outils extrêmement précis, d'éditeurs, d'options, de modules de collaboration, de modules aussi de monétisation, parce que ça fait partie, comment dire, de la vie créative que de monétiser donc ses contenus, ses ouvrages. Et donc on travaille sans cesse en interaction donc avec ces auteurs qui aussi d'ailleurs ont des besoins différents en fonction de leur connaissance et de leur avancement en allant vers les publics. Ça c'est très, on a évoqué Wattpad, bon, qui est une plateforme, comment dire, qui existe depuis une vingtaine d'années, bon. Ce qui est important, c'est qu'un auteur débutant de 40 ans, par exemple, qui va aller sur le web, qui va rechercher donc, des publics numériques, et qui n'a vraiment jamais eu cette démarche-là, ou alors en tout cas une démarche avec des objectifs précis, va avoir besoin donc, d'outils et d'accompagnement. Ce que une personne plus jeune, de 15 ou 16 ou une vingtaine d'années, va plus naturellement faire ou comprendre. Donc ça c'est donc on est sans cesse en train de se dire quel nouvel outil on va créer ou comment nous allons améliorer ce que nous avons. Du côté de lecteur, c'est pareil. Sauf que les attentes ne sont absolument pas les mêmes. Je refais un parallèle avec la musique en ligne. Bon, nous avons mis à disposition donc des oreilles, des interfaces pour créer des playlists.
thématiques en fonction de vos humeurs, de vos goûts, de vos anniversaires, etc. etc. Nous avons tous ici, je crois, donc des rituels de lecture qui sont différents du soir, du matin, de la semaine, du week-end, de la plage ou de la montagne. Bon. Donc là, on voit effectivement se dessinent, en fin de compte, de nouveaux services, de nouveaux besoins qui vont aller toujours à la rencontre des œuvres, à la rencontre des auteurs, à la rencontre des thèmes ou des douleurs ou des besoins, comme nous l'avons beaucoup aussi évoqué ce matin et encore maintenant autour de la date romance. Et donc là, ce sont d'autres technologies, ce sont d'autres, d'autres outils qui vont être mis en place. Et si je termine, puisque vous avez évoqué cette zone grise, en quelque sorte, donc comment un lecteur, va pouvoir participer donc au narratif et lui donner envie, en fin de compte, de prendre la plume numérique pour vivre, en fin de compte, ces nouvelles expériences, ben, on pourrait l'appeler en quelque sorte le contributeur, l'ambassadeur, le commentateur, l'observateur. Bon. Et donc là, ce sont encore d'autres processus qu'il faut donc imaginer pour faciliter, encourager, et dans un contexte, en ce qui nous concerne, nous, chez Panoul, c'est extrêmement difficile, qui est la tenue des comportements en ligne pour avoir un espace de paix. On a parlé ce matin de silence, on a parlé en quelque sorte de temps calme de lecture, et on a aussi parlé de l'agitation et parfois des dangers, parfois mortels, donc des réseaux. Donc nous, en tant, puisque j'évoquais donc l'éthique, nous devons aussi mettre en place des processus qui donc structurent ces différents comportements.
Merci. Alors vous êtes aussi.
Non, je rejoignais parce que, bon, après moi, mon expérience au Canton à Wattpad, je trouve ça intéressant ce besoin de vraiment morceler entre créateurs et lecteurs. Dans le sens où sur Wattpad, notamment dans les communautés de femmes, etc., la frontière se brouille énormément. Un utilisateur qui s'inscrit sur la plateforme n'a pas besoin d'être auteur ou lecteur. Et souvent, il peut commencer par exemple par être lecteur, mais il va être amené, surtout dans les communautés de fans, à créer de son côté. Donc il y a vraiment cette idée de déhiérarchisation. Et l'auteur est un lecteur parmi les lecteurs, et le lecteur est un auteur parmi les auteurs. Donc je trouve ça très intéressant, parce que c'est pas du tout le même procédé. Après, il y a aussi cette idée de la jeunesse qui est en effervescence, qui découvre à la fois le plaisir de la lecture et de l'écriture, et qui teste un peu toutes ces expériences, ces disciplines. Mais du coup, sur Wattpad, il n'y a pas du tout ce besoin de morceler. C'est vraiment au contraire, on essaie d'être rassemblés, on essaie, un auteur de fanfiction va appeler un autre auteur de fanfiction à dire oui, bon bah moi j'aime bien cette romance entre Drago et Harry, mais en fait j'aurais préféré avec Ron. Et du coup ça entraîne une multitude de réactions et une multitude de créations. Et donc le lecteur ne se cantonne absolument pas à son rôle de lecteur.
Oui, alors une petite précision par rapport à ça, c'est que je vous ai répondu en tant que technicien, en tant que entrepreneur fabriquant un produit technologique. Mais ensuite, effectivement, comme vous dites, tout le jeu, c'est que vous ne vous puissiez pas vraiment vous en rendre compte et de vous accompagner d'un moment à un autre, de passer à lecteur, acteur, observateur, narrateur, lecteur. C'est évidemment tout le jeu. Et pour réussir, en fin de compte, tenir finalement cet objectif, on doit vraiment, comme un artisan, un horloger, tout décortiquer point par point, étape par étape, interface par interface, pour arriver à cet objectif final qui est le Graal, en quelque sorte.
Pour passer justement du point de vue d'auteur, vu que j'écris également, c'est vrai qu'on pense que l'écriture est un parcours assez solitaire, ce qui est assez vrai, mais on est souvent très entouré. Moi, par exemple, j'ai plusieurs pétalecteurs, ça peut être de la famille, des amis, ça peut être aussi petit à petit des chroniqueurs qui ont apprécié ce que j'ai fait. Et c'est vraiment tout ce partage de vision qui permet au livre d'avancer, à l'histoire, d'être encore meilleur. C'est vraiment, moi en tout cas, ce qui me plaît au quotidien, c'est le plaisir du partage. Il y a des lecteurs qui vont vous donner des idées, vous n'allez pas forcément les prendre, mais vous allez peut-être parfois même prendre l'inverse de l'idée donnée, parce que moi j'aime bien être en contradiction, c'est le côté rebelle certainement. Et parfois vous allez aussi aller dans le sens de votre lectorat. Par contre, moi ce qui me fait un peu peur, c'est l'idée de communauté de plus en plus grande. Quand vous êtes célèbre, alors moi je suis très très petite autrice, assez invisible dans ce milieu-là, donc j'ai pas de grosse communauté, j'en ai toute petite, et c'est très bien comme ça, parce que mine de rien, moi en tout cas, ça me fait un peu peur quand j'entends ce qui se passe autour de très grands auteurs, qui se voient forcés de changer leurs idées, d'aller peut-être à contre-courant de ce qu'ils auraient voulu faire, de leur, parfois de leurs valeurs, pour faire plaisir à un lectorat. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose d'assez effrayant, en tout cas en tant que créateur, de se dire, mon Dieu, est-ce que je vais être prête à me changer, à changer ce que je pense, pour faire plaisir à des gens? Et ça, c'est une question, pour l'instant, à laquelle je n'ai pas de réponse.
Est-ce que tu pourrais donner peut-être plus de détails? Parce que je pense que là, c'était pas forcément la question que j'avais prévue. Voilà, c'est vraiment dans le sujet, puis je crois que, en plus, Mélanie avait peut-être des choses à ajouter. Parce que tu disais, j'ai entendu parler d'auteurs, mais est-ce que tu as des exemples d'auteurs concrets, tu as connaissance de personnes qui... Parce que c'est plus la dark romance, mais c'est le dark side de ces collaborations, c'est qu'il peut aussi y avoir des pressions, apparemment, d'après ce que tu dis.
Alors, par exemple, j'ai vécu avec l'une de mes autrices qui avait une communauté assez importante, notamment sur ses réseaux sociaux, qui écrit de la dark fantasy chez nous et qui, en fait, m'a avoué, après édition, donc beaucoup plus tard, avoir voulu changer sa fin pour faire plaisir à sa communauté. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, ça allait complètement à l'encontre de ce qu'elle voulait faire au départ, de ses valeurs. Et pour elle, du coup, maintenant, malheureusement, c'est une assez grande souffrance, une torture, parce que pour elle, ce n'est plus son livre. C'est un livre qui appartient à d'autres. Alors, moi, je pense aussi que quand on écrit, il faut savoir le partager, le donner à d'autres. Il va vivre à l'extérieur de nous. Mais je pense aussi qu'au départ, il faut d'abord qu'il nous plaise, vraiment. Qu'on l'assume complètement. Et malheureusement, du coup, elle a été affectée par ce phénomène-là. En fait, elle a fait une fin heureuse de romance dans sa dark fantasy, alors que l'univers est très sombre. Ça parle de sorcellerie, etc., de malédiction. Donc au départ, elle voulait faire une fin pas heureuse, pas une happy end, mais sous la pression de certains lecteurs, parce que c'était une série. Donc elle a eu des lecteurs qui avaient lu ses premiers tomes, qui avaient apprécié, qui lui ont demandé « Je veux que ce personnage-là finisse avec celui-là, etc. » Donc elle n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais elle a pris certains commentaires. Et malheureusement, aujourd'hui, elle se remet en question. Elle ne sait pas si elle continue d'écrire. Elle ne sait pas comment. Elle ne sait pas comment plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, je pense, dans ce métier-là. Ou alors, il va falloir se changer, aller contre ce qu'on est. Et ce serait... Enfin, moi, en tout cas, en tant qu'autrice, je me dis que je préfère déplaire à beaucoup et me plaire à moi-même d'abord.
Non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire que... Là, pour le coup, elle a peut-être manqué d'accompagnement, mais c'est des phénomènes nouveaux. Et peut-être qu'il aurait fallu qu'elle s'en ouvre. Je ne sais pas si tu étais déjà son éditrice à ce moment-là ou pas.
Alors justement, j'étais son éditrice et je lui avais justement parlé de ces problèmes-là, mais elle n'est jamais venue vers moi parce qu'elle pensait prendre la bonne décision. Donc après, il n'y a pas de souci. Hein. Elle en a parlé avec ses lecteurs à elle, ses bêta-lecteurs qui, eux, étaient pour. Et c'est vraiment beaucoup plus tard quand elle a reçu... certains retours justement sur cette fin. Ah, j'aurais attendu une autre fin. Et là, je lui ai dit, écoute, déjà, en tant qu'avis d'auteur, moi, j'ai des avis très divers sur mes œuvres. Ça va aux extrêmes, donc on ne pourra jamais plaire à tout le monde. Mais d'abord, je lui avais dit, écris quelque chose que tu assumes, que tu seras fière de présenter. Effectivement, elle ne m'en a jamais parlé parce qu'elle ne pensait pas que ce serait un sujet important et elle ne pensait pas souffrir de ça. Elle pensait vraiment faire plaisir. Et en fait, elle a eu plein de bons retours. Et dès le premier commentaire négatif, en général, en tant qu'artiste, il y en a... Enfin, c'est ceux qui nous marquent le plus, alors que ce ne sont pas forcément ceux qui arrivent le plus. Ça l'a complètement tourmenté, en fait.
D'accord. Alors, je ne sais pas, parce que j'ai vu que Mélanie acquiesçait tout à l'heure, et aussi Léa. Donc, si vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, n'hésitez pas.
J'ai acquiescé parce que je trouvais intéressant. Mais en tous les cas, ce que je peux dire, c'est sur les liens entre... Alors moi je me passe du côté des fans, et donc j'ai dit, au départ c'est souvent de séries télévisées, et les liens entre scénaristes ou producteurs de séries télé et fans sont assez intéressants, et justement quand il y a production de fans, parce qu'il y a des questions de propriété intellectuelle bien évidemment, ou de copyright, si on se passe du côté américain, qui sont à l'œuvre, finalement, quand il y a production de fans, puisque le fan va utiliser la propriété intellectuelle, c'est-à-dire les personnages, les lieux, l'histoire, et donc pour produire du contenu original qu'il va partager, bon, gratuitement, en général, souvent le travail de fan est un travail gratuit, c'est juste pour le plaisir de produire quelque chose et de le partager après dans sa communauté. Mais ce que je voulais dire, c'est que certains auteurs, alors souvent, les scénaristes et les producteurs laissent faire, parce que ça fait aussi de la publicité un peu gratuite hein, pour l'œuvre, hein, pour la série télé, voilà. Donc il laisse faire, mais parfois certains scénaristes et certains auteurs sont assez contre. Et c'est des exemples assez célèbres hein, que vous connaissez peut-être, mais G.R.R. Martin hein, autour de Game of Thrones est absolument contre toute forme de fanfiction hein, justement de son œuvre hein, parce qu'il estime que c'est son œuvre, que c'est lui l'auteur. Et que donc c'est du vol de propriété intellectuelle, hein, donc il n'aime pas du tout ce genre de choses. Surtout que dans les fanfictions de Game of Thrones, il y a beaucoup de fanfictions incestueuses et de choses très, très poussées. Hein. Et l'autre exemple très célèbre, c'est J.K. Rowling, on en a parlé tout à l'heure, mais elle est absolument, elle aussi, contre toute forme d'écriture de fanfiction, et en particulier d'écriture de fanfiction homo-érotique. Hein. Il y en a énormément hein, dans l'univers de Harry Potter. Et donc, elle avait créé une plateforme interactive qui s'appelait Pottermore à l'époque. Enfin, je ne sais plus si elle est en ligne, je ne sais pas trop. À l'époque, elle avait créé donc cette plateforme. Alors, qui proposait du contenu additionnel hein, c'était un peu une forme de transmedia storytelling hein, finalement. Mais il y avait aussi l'accueil de fanfiction. Et en fait, c'était un peu une façon pour elle de contrôler justement ce qui était produit au niveau de ses fanfictions, puisqu'elle avait un droit de regard sur ce qui était publié sur cette plateforme. Sauf que, bien évidemment, les fans publient où ils veulent, quand ils veulent et comme ils veulent. Hein. Donc, il y a multitude de plateformes autres que telles, fanfiction.net, Wattpad, voilà. Donc, contrôler la production des fans est un peu... utopique, hein, si je puis dire. Et autour de Harry Potter, il y avait eu aussi la célèbre Potter War hein, qui avait été déclenchée, puisque Warner Bros., hein, qui avait récupéré les droits de diffusion, avait demandé à tous les fans à l'époque de ne plus créer de site web, de ne plus créer de forum, de ne plus créer de fanfiction, puisque c'était vol de propriété intellectuelle aussi. Alors, bien évidemment, les fans ont continué, hein, mais il y avait eu ce conflit entre les deux. Et autre exemple, je peux... qui est un contre-exemple, justement, parce que c'est autour de Mad Men. À l'époque, alors c'est intéressant ça comme exemple, parce qu'à l'époque, il y a des fans qui créaient des fanfictions sur Twitter en incarnant les personnages, en fait, de Mad Men. Donc, ils écrivaient leur fanfiction, comme ça, ils incarnaient les personnages. Donc de la créativité, hein, là aussi de la part des fans et une grande connaissance de la série, hein, puisqu'incarner un personnage, voilà, ça veut dire bien connaître le personnage, bien connaître la série. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc Mad Men s'était diffusé sur AMC à l'époque et le département juridique de AMC avait demandé à ses fans de fermer ses comptes parce que ben voilà, encore une fois, vol de propriété intellectuelle, donc ils avaient demandé aux fans. Et de façon intéressante, le département marketing de AMC avait demandé aux fans de garder ses comptes ouverts. Donc vous voyez, il y a une bataille en fait entre propriété intellectuelle et marketing finalement. Et là, c'est la même chaîne en fait qui était en bataille elle-même sur ses productions de fans.
Et tu veux... Oui, vas-y. Je rebondis rapidement plutôt ouais, sur ce que disait Chloé. Parce que j'avais une sorte de contre-exemple mais qui revient un peu sur la même idée. C'est qu'il y a l'autrice Maëlle Pau qui fonctionne beaucoup sur Wattpad, qui a été publiée par Hachette, très bien fonctionnée sur Hachette, elle a une belle carrière maintenant. Et elle a décidé d'écrire une romantaisie, donc une romance de fantasy, donc une fantasy articulée autour de la romance. Et elle a décidé pour une fois de ne pas fonctionner avec l'écriture collaborative. Donc elle a vraiment écrit tout en solitaire, tout de son côté, et elle a publié d'un coup. Et elle a fait le contraire, c'est-à-dire qu'elle a fait une fin qui ne plaisait pas. Elle a fait une romantaisie, donc une romance, qui ne se finissait pas bien pour les deux personnages. Et alors là, boycott des lecteurs, mais elle s'est fait incendier de tous les côtés, et les lecteurs sont allés plus loin et ont dit « mais c'est une trahison, parce que la romance, ça doit se finir bien. C'est le genre de la romance, c'est la règle. » Et donc elle s'est fait complètement incendier, ça l'a arrêtée dans l'écriture pendant un an, et elle s'est dit « Ok, maintenant il faut que je redonne de la place au lecteur parce que si je fais mon chemin comme ça, bah, je vais me faire incendier, je vais les décevoir. » Donc ça a vraiment un impact si on décide de faire tout en solitaire. Le lecteur aujourd'hui est conscient de son pouvoir, il est conscient de sa présence. Si on ne lui laisse pas cette présence, ça ne le fait pas du tout.
D'accord. Ah oui, donc c'est... On était parti sur un titre très bisounours, les nouveaux processus collaboratifs au parc public, et finalement on s'aperçoit que c'est voilà qu'il y a un rapport de force en fait, et que c'est pas seulement de la collaboration. Et bon, il y a toujours en fait un rapport de force dans les collaborations, mais c'est très intéressant. Merci. Et alors du coup, bah, peut-être pour aller un petit peu plus loin dans cette question du rapport de force. Enfin, c'est une question qui m'est venue quand j'écoutais Mélanie, mais tu as déjà donné l'exemple des Potterwands, mais je me posais la question, est-ce qu'il y a déjà eu des vrais procès ou des fanfictions ont été vraiment, parce que on les menace manifestement, on leur dit faut arrêter, vous portez atteinte au copyright, mais est-ce que il y a déjà eu effectivement des gens qui ont écrit des fanfictions plus généralement ou des pratiques de fans et qui ont perdu un procès et on leur a demandé de rembourser, ou est-ce que ça reste jamais que des menaces? Enfin voilà, je te pose la question, mais je ne sais pas si tu peux y répondre.
Ah ben alors là, je suis bien embêtée pour répondre parce que je ne sais pas. En fait, il y a des procès. Je connais ces exemples-là de tension, effectivement, et comme tu dis, de rapport de force hein, entre auteur et fan. Peut-être que Léa, tu as pas des... Ouais, parce que moi, là, j'ai pas vraiment d'exemple de procès.
Alors, étant défenseur et acteur de propriété depuis 25 ans, à l'heure où nous vivons aujourd'hui, donc à l'heure de l'extrême numérique avec les IA et ses usages numériques, la propriété intellectuelle est un sujet extrêmement vital d'ailleurs pour beaucoup d'industries, en particulier donc les nôtres. Donc, et en témoigne, je dirais, l'actualité actuellement, puisqu'un rapport européen donc, qui a été préadopté, je crois, cette semaine, est porté par le député européen Axel Voss, donc en témoigne, donc à l'ère, enfin que l'illustre, à l'ère de l'IA. Donc moi, ce que je peux vous dire en tant que constructeur d'outils qui protègent la propriété intellectuelle en général, donc que ce soit celle d'auteur auto-édité ou d'éditeur, ces sujets sont de plus en plus renforcés par à la fois une régulation européenne dont on peut se réjouir en Europe, franchement. Nous avons, je crois, la chance d'être dans un pays où la propriété intellectuelle est née, la France, et dans une zone économique et d'échange et collective où c'est un sujet majeur. Donc, il y a des procès. Alors, je ne pourrais pas donner d'exemples parce que je ne les ai pas en tête, mais que ce soit dans le monde de la musique ou dans le monde, de la publication, en témoignent les procès l'été dernier aux États-Unis entre éditeurs et fabricants d'IA, ou encore récemment entre organismes de presse européens et fabricants d'IA. Ça montre bien, les enjeux autour de la propriété intellectuelle. À un plus bas niveau qui est le nôtre, donc chez Palmissi, on a d'ailleurs fabriqué ce qu'on appelle une notice de transparence IA pour renforcer les droits de la propriété intellectuelle, qui sortira la semaine prochaine. Mais il n'y a pas de demi-mesure et d'inaction lorsque nous avons donc un avertissement autour de la propriété intellectuelle. Et ça, je crois qu'il faut être extrêmement pédagogique, ludique sur ces sujets-là, parce que encore une fois, bien souvent, alors on parle des passions créatives et des passions entre lecteurs et créateurs, mais dans les coulisses, tout créateur a besoin de vivre. Et on sait bien que dans nos industries, il est difficile d'en vivre ou d'en avoir quelques euros. Donc, et la propriété intellectuelle est un pilier, je pense qu'il faut, le garder en tête et probablement s'y intéresser un petit peu plus et se former pour se protéger.
Mais parce que là, vous avez donné des... Alors, effectivement, j'ai bien entendu parler des procès en lien avec l'utilisation par les IA, par les IA génératives de contenu existant. Mais c'est vrai que... Mais apparemment, c'est pas le cas. Enfin, moi, je m'intéressais plus spécifiquement à la fanfiction. Et là, apparemment, enfin, moi, j'ai jamais entendu parler de procès qui portaient sur des fanfictions. Ça prouve rien, mais en tout cas, aucun d'entre nous n'en a entendu parler. Mais j'avais une question. Vas-y. Mais j'avais du coup une question, mais après vous verrez entre vous deux qui intervient en premier. À nouveau à Alexandre Faumestier, c'est comment vous gérez la fanfiction du coup sur Planète 17 et,
C'est une bonne question. Et on pourrait faire mieux. On la gère, je dirais, comme les autres gens, dans la mesure où il y a des rayons catégorisés. Le sujet de la catégorisation pour la découvrabilité des contenus, justement encourager ces interactions entre lecteurs passionnés d'un sujet et d'un thème, faciliter ces fameuses rencontres. Sinon, qu'est-ce qu'on fait de spécifique pour la fanfiction? Je pense, mais rien. Peut-être qu'on pourrait faire des choses, et je suis intéressé à le savoir, justement, parce que c'est tout le jeu, justement, de collecter ces besoins, ces retours, ces idées du terrain, que ce soit des lecteurs ou des créateurs, pour améliorer, justement, ces...
Et par exemple, vous n'avez pas de dispositif, si quelqu'un raconte une histoire dans un univers qui est soumis à propriété intellectuelle, a priori, vous n'avez pas de dispositif pour lui dire « Attends, tu... »
Alors, tout est soumis à propriété intellectuelle.
D'accord.
Absolument tout. Ça, c'est, comment dire, c'est le principe de la propriété intellectuelle. Hein. Par rapport à ce style... la fanfiction, en revanche, on pourrait par exemple recevoir donc de la part d'un éditeur et d'un ayant droit qui remarquerait sur Panisse, ah mais regardez telle publication donc de fanfiction, je la conteste et je vous demande de la retirer pour être extrêmement précis. Eh bien, nous prendrions nos dispositions simplement pour faire quelque chose. Mais voilà, ça, je peux vous dire l'état actuel des choses.
Il n'y a rien à priori. Oh, Mélanie, tu voulais... D'accord. Bon. Et alors, je crois que Léa...
Moi, je reviens, je n'ai pas d'exemple de procès. En revanche, j'ai un exemple d'une autrice qui écrivait sur Wattpad, qui écrivait notamment en s'inspirant d'histoires déjà soit publiées, soit des films. Et en l'occurrence, elle a failli publier un livre qui était directement inspiré d'un film Netflix dont je ne me souviens plus du nom. Et donc, elle a été contactée par l'éditeur Misha, etc., un éditeur de romance, qui a signé le contrat avec elle. Ils ont fait les corrections, ils ont lancé les bons à tirer, les impressions. Et une semaine avant la publication, l'arrivée dans les librairies du roman, ils ont appelé Nolwenn, cette autrice, pour lui dire « Non, en fait, on ne va pas publier parce qu'on s'est rendu compte que tu étais directement inspirée de ce film et on a trop peur du plagiat. » Donc on annule tout. Ce ne sera pas publié chez nous. Et donc elle a perdu le contrat. Comme quoi, même si c'était pas un plagiat, c'était vraiment une inspiration, etc., et c'était noté sur son compte Wattpad où ils sont allés chercher le manuscrit, ils avaient trop peur qu'il y ait trop de liens, et donc ils ont préféré tout annuler.
D'accord. C'est un exemple intéressant. Et alors justement, ça permet de relier à la question que je voulais faire suivre. Moi, je ne connais pas du tout, en fait, Wattpad. J'ai découvert à l'occasion de l'organisation de ce colloque. Mais tu as eu l'air de suggérer qu'il y avait sur Wattpad des communautés de fans. Et du coup, ma question, c'était des communautés de fans de quoi? C'est-à-dire d'œuvres préexistantes, célèbres comme Harry Potter, ou d'œuvres de gens qui ont écrit sur Wattpad? Comment s'articule l'existence de communautés de fans dont tu as témoigné avec le reste du dispositif que semble être Wattpad, c'est-à-dire une plateforme de rencontre entre lecteurs et écrivains? Et c'est une question que j'adresse à Léa, mais évidemment, si vous avez des choses à dire aussi sur ce sujet, c'est tout à fait possible.
Alors, il y a des fans de tout, vraiment tout. Du coup, il y a les grandes communautés, les Arianators, les fans d'Ariana Grande, les Directioners, les fans de One Direction, même si ça commence à baisser, mais avec le succès d'After d'Anna Todd, qui était une fanfiction de One Direction, ça avait vraiment explosé. Il y a les fans des univers d'Harry Potter, etc. Je ne suis peut-être pas assez pointue pour dire s'il y a des fans de fiction Wattpad qui qui créent leur communauté autour d'une fiction Wattpad. J'ai quand même l'impression que ça doit partir d'un roman qui a déjà été publié, pas d'une fiction en tant que telle. Les fictions, c'est vraiment plutôt des prolongations sur Wattpad, dans la fanfiction en tout cas. Et les communautés de fans sur Wattpad, ça a pendant très longtemps pris tout l'espace. C'était eux vraiment qui étaient la plus grosse communauté. Et d'ailleurs, Wattpad a joué sur ce processus en nommant sa communauté les Wattpadiens ou les Wattpaders en anglais. Donc il y avait vraiment cette idée qu'on se réunissait comme ça. Et d'ailleurs, c'est ce qui permettait beaucoup la visibilité. Sur Wattpad, quand on ne faisait pas partie d'une communauté de fanfiction, d'une communauté de fans, c'était beaucoup plus difficile de trouver une visibilité. On avait juste à mettre le mot-clé hashtag Arianators, hashtag Directioners, hashtag Potterheads. Et c'est bon, on savait qu'on allait trouver potentiellement un certain nombre de lecteurs parce qu'on était dans la même communauté de fans. Alors que quand on n'en était pas, on ne faisait pas partie de ça et qu'on écrivait sur quelque chose d'autre, de la fiction, il allait vraiment falloir travailler, aller à la rencontre du lecteur parce qu'on n'avait pas cette communauté déjà prédéfinie. Moi, j'étais pas dans la fanfiction.
Ouais.
Et il y avait ce truc de, il fallait déjà que je sois très présente et lire beaucoup de fiction. Il fallait que je sois très active, publier très très régulièrement, répondre, être extrêmement disponible, accessible, etc. Et d'ailleurs, à la publication de mon roman, j'avais fini d'écrire le tome 1, commencé le tome 2, mais c'était une trilogie. Et quand les lecteurs m'ont appris qu'ils ne pourraient pas avoir la totalité de la trilogie gratuitement sur Wattpad, j'ai eu un boycott de « tu nous as trahis, tu nous dois, c'est grâce à nous que tu te fais éditer ». Et je me suis dit « ah ouais, d'accord ». Et enfin vraiment, on était dans une collaboration, quand on avait tout fait ensemble. Et ils se disaient « pas oui, mais bon, elle mérite peut-être rémunération, c'est un peu de travail ». Non, c'était « trahison, tu nous as trahis, tu ne finiras pas ton histoire sur Wattpad, je ne te dis plus ».
Oui, non, ce que je voulais rajouter, c'est que des auteurs de fanfic, des auteurs ou des autrices, hein, c'est souvent des autrices d'ailleurs, hein, de fanfiction, peuvent avoir leurs fans. Hein. Donc ça c'est assez intéressant, c'est que des autrices vont publier leur fanfiction et au bout d'un moment, avec les, c'est souvent des bêta-readers aussi qui deviennent fans, mais elles arrivent à créer une communauté autour de leur fanfiction, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir ce phénomène. Et donc, elles deviennent en fait ce qu'on appelle des super fans, quoi. Donc, avec un certain aura aussi dans la communauté, parce que, ben voilà, elles produisent du contenu. Et voilà, j'avais vu ça, j'avais fait une analyse des fans de Jane Austen, justement. Donc, des fans qui se rendaient à Bath pour aller visiter les lieux emblématiques des romans de Jane Austen. Bon, sachant qu'il y a très peu, en fait, de romans qui se passent vraiment à Bath chez Jane Austen, mais bon. Ça c'est anecdote, mais en tous les cas j'avais vu qu'il y avait des autrices de fanfiction de Jane Austen qui avaient elles-mêmes leur communauté de fans et c'était assez impressionnant de voir comment elles étaient influentes dans la communauté et comment elles pouvaient générer de la conversation sur ce qui se passait dans les romans. Enfin, ça faisait vraiment tout un écosystème de discussion qui était assez intéressant, quoi. Et tout ça parce qu'elles écrivaient des fanfictions qu'elles publiaient ensuite après en roman, soit en autopublication. Donc c'est assez intéressant de voir tous ces phénomènes aussi.
Pour rebondir sur Wattpad, du coup ça me rappelle moi le cas d'un de mes auteurs en fait. Alors c'est après coup que je l'ai appris, mais maintenant d'être publié sur Wattpad et d'avoir beaucoup de personnes qui vous lisent, ça devient un argument marketing en fait chez les éditeurs. Alors moi je suis un peu particulière, je m'intéresse pas du tout à ça, je veux vraiment lire l'histoire, le message, la plume. Et même si vous avez aucun réseau social, bah, je vous prends quand même. Mais du coup, ce que... Alors oui, bon, je ne cherche pas forcément à vivre de mon activité, surtout à me faire plaisir à partager des messages qui m'importent et des valeurs humaines et sociales. Donc malheureusement, parfois, ça ne va pas toujours avec le côté commercial du métier, en tout cas. Et en fait, j'ai appris après coup, parce que l'auteur était frustré de voir ses ventes. Il a vendu, mais il n'a pas vendu autant qu'il avait de vues, de lecteurs, de communautés sur Wattpad. Quand il m'a montré, regarde, mais mon livre, il avait fait tant de vues, pourquoi j'ai pas fait autant de ventes? Alors, bah écoute, déjà, il y a la gratuité du livre quelque part, il y a le budget aussi du livre, les gens ne veulent peut-être pas racheter ton histoire, même si elle a été un petit peu modifiée par un travail éditorial. Ça a été compliqué de lui expliquer que c'était deux choses très distinctes, qu'on ne pouvait pas du tout les lier, et que c'était ok, enfin, en tout cas, moi, ça me dérangeait pas, qui n'avait pas autant de ventes, mais lui, vraiment, c'était dramatique. Il avait vraiment passé beaucoup de temps sur cette application, à effectivement répondre à plein de gens, être actif tout le temps, très disponible, et de voir que les ventes, bah, ce n'étaient pas des milliers comme il avait beaucoup, beaucoup plus de vues que ça sur l'application. Donc ça a été compliqué à gérer au niveau de l'ego, de l'émotionnel, et de voir que bah, oui, les deux ne sont pas forcément liés. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. C'est très dur de dire aujourd'hui qu'un livre Wattpad qui a des millions de vues, bah, est-ce qu'il va vraiment se vendre autant qu'on le pense? Alors ça dépend, à mon avis, pas que ça, ça dépend aussi de la diffusion, de la distribution. Typiquement, Cordeleux, on n'est pas distribué, donc forcément, ça enlève beaucoup de points de vente. Ce n'est pas juste... les communautés ne font pas tout non plus, et c'est vrai que certains auteurs commencent à s'en rendre compte, et pareil, d'autres de mes auteurs qui ont beaucoup de vues sur les réseaux sociaux se plaignent assez régulièrement bah, que les ventes ne suivent pas, alors que les gens sont présents, sont là, sont actifs. Donc c'est vrai que j'ai pas de réponse moi à donner toute faite en tout cas à ça, mais que bah, malheureusement ça ne suit pas, et c'est comme ça, on ne peut pas forcer les gens à acheter.
Mais je vous le dis, parce que je trouve que ce problème il est aussi chez les éditeurs. Pour avoir été publié par Hachette, donc j'avais 1 900 000 vues de, sur Wattpad, sur ma fiction. Et donc Hachette procédait avant avec sa maison d'édition H-Lab, le laboratoire d'Hachette, à une veille sur Wattpad. Ils avaient signé un contrat avec Wattpad, et donc ils checkaient, et ils allaient contacter des auteurs qui avaient fait des millions de vues. Parfois, ils n'avaient même pas vraiment lu l'histoire, mais juste, on avait un auteur qui marchait super bien, on signait. Et en gros, le concept d'H-Lab, c'est ils font à peine de la relecture, très 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 peu de corrections. Moi, j'avais écrit mon roman à 15 ans. C'était un roman sur Wattpad, on écrit progressivement. Donc en fait, il y a plein de chapitres qui ne servent strictement à rien. Je l'ai écrit pendant que j'avais le bac. Donc pendant mon bac, j'ai écrit des chapitres qui ne servaient à rien, qui ne faisaient absolument pas avancer l'histoire, juste pour garder mon actualisation et garder mes lecteurs. Et ça, ils ne sont pas allés voir, ils n'ont pas raccourci, ils n'ont pas corrigé. Ils se sont dit, on tente le tout pour le tout, elle a 1 900 000 vues, on va le publier comme ça à 9 euros sur Amazon, la Fnac en numérique, et puis si on fait un certain nombre de ventes, on publiera en papier. Mais ça ne marche pas. Et là, H-Lab aujourd'hui n'existe plus, a été rebaptisé IRA, ils ont changé tout, mais ils ont pas essayé de s'adapter, et ils n'avaient pas compris que effectivement, déjà on a des lecteurs qui sont très jeunes, donc qui n'ont pas forcément 9 euros à dépenser dans ce genre de livre, et qui ne vont pas vouloir le faire parce qu'ils ont eu le contenu gratuit avant. Ensuite, on a des auteurs qui sont très jeunes, donc c'est pas la même proposition, c'est pas la même qualité. Donc quelquefois, il faut aussi prendre ça en compte. Et je pense que c'est un problème d'auteur, mais c'est aussi un problème d'éditeur. Il y avait ce truc d'inconscience totale que ben, c'est pas parce que vous prenez un énorme succès sur Wattpad que vous vous contentez de le rendre pas gratuit, enfin du coup payant, et que tous les lecteurs vont suivre. Et ils ne suivaient pas du tout cette idée.
Et du coup, ton expérience, donc t'en as un petit peu parlé, mais du coup, t'es quand même, ça s'est passé comment au niveau des ventes avec Hachette, et est-ce que tu es quand même contente de ton expérience?
Alors déjà, voir qu'il n'y avait absolument pas de travail sur ce que je faisais, sachant que j'avais écrit quand j'avais 15 ans, aujourd'hui, je suis très mal à l'aise avec ce que j'ai écrit. J'avais 15 ans, quoi. Je me relis, je me dis, mais il y avait tellement de choses à changer. On parle du consentement. Aujourd'hui, on a grandi avec MeToo, mais moi, quand j'avais 15 ans, c'était pas MeToo, c'était juste avant. Donc, il y a des trucs, c'est hyper problématique. Je me relis, je me dis, mais j'ai pas envie que de jeunes lectrices lisent ça, je suis pas du tout d'accord avec moi-même. Et vraiment, ce truc de j'ai été lâchée dans le grand bain. Bon, j'ai été éditrice ensuite, et en plus, éditrice chez Hachette, et j'ai vu que je m'étais fait avoir sur l'avance sur droit, mais à un niveau, c'était intersidéral, quoi. Et donc, toute l'expérience, ma première expérience, ça a été vraiment une série d'échecs, peu de ventes, peu de visibilité. On m'avait pas dit que ça dépendait du nombre de ventes en ligne si j'étais publiée en papier. On m'a dit non, vous allez être publiée en papier ensuite, au bout d'un certain délai, chez Hachette Roman. Jamais j'ai eu cette chance. J'ai vérifié dans mon contrat d'édition, ce n'est pas stipulé que je devais attendre un certain nombre de ventes. Et il n'y a pas eu de... plus de communication que ça, et ils ont tout misé en disant ouais, le succès Wattpad, lisez Avril. Enfin, c'était un peu perdu avant, je pense.
Et disons, tu as essuyé un peu les plâtres, mais est-ce que, je sais pas, est-ce que vous avez connaissance de transformations qui ont marché, en fait, de gens qui ont eu un succès gratuit sur des plateformes de ce type et qui après sont passés
Ah, voilà, à des...
oui, donc tu pourrais, tu en as.
Mélanie aussi.
Ah, pardon.
Bah, le succès le plus probant, c'est Captive, hein, de Sarah Evans, qui a été publié par la même édition, même zone d'édition que moi, mais c'est BMR, c'est une branche, par les mêmes éditeurs, donc qui a fait énormément de ventes et qui aujourd'hui a une carrière super. Elle a sorti Lightstone, ça marche hyper bien. Enfin, elle va être adaptée par Prime Video, donc ça marche très 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 bien. Et sinon, à plus petite échelle, je parlais de Maëlle Pau, qui est une de mes amies, qui, pareil, a écrit sur Wattpad. Elle était plus vieille que moi, je pense que ça joue aussi sur la qualité de ses écrits. Et elle a été publiée par HLab, ça a super bien marché. Hachette Roman a repris ses écrits et l'a republié. Et aujourd'hui, là, cette année, elle est en tournée, elle a trois romans qui vont sortir. Elle a un projet potentiel avec Joyce Keaton, qui a écrit Borderline. Donc, ça marche très très bien. Donc, ça peut très bien marcher, mais c'est aléatoire. Et c'est pas aussi simple que il faut avoir. Elle avait moins de vues que moi sur Wattpad, par exemple. Donc, c'est pas aussi simple.
Je voulais peut-être ajouter un point par rapport à ça. Étant acteur du numérique depuis longtemps, effectivement, il y a beaucoup de déçus du monde de l'édition traditionnelle qui a beaucoup de mal à se transformer, mais elle se transformera incontestablement. Et effectivement, c'est un phénomène de déception parfois. Dans l'écosystème, en numérique, au niveau de l'attention des publics, effectivement, c'est pas parce que vous allez avoir un grand succès numérique, donc en termes de vues, en termes de lecture, etc., que vous allez ensuite vendre des livres. Et ce que je veux dire par là, c'est que le créateur, l'auteur, l'artiste, en fin de compte, certes, il a une vie numérique aujourd'hui presque indispensable, sauf très rare exception, enfin bon, c'est loin d'être la majorité, et la manière, en fin de compte, dont il va valoriser sa création, son ouvrage, son expérience, est issue d'autres formes donc de création. En musique, on peut appeler ça des concerts. En littérature, on peut appeler ça des ateliers d'écriture, des formations, des animations. Et donc, tous ces éléments-là, en fin de compte, d'audience numérique au profit d'une marque d'auteur, au profit d'une marque d'un ouvrage, sont aussi à monétiser autrement, en fin de compte, son histoire ou ce qu'on appelait avant donc, le livre, qui était donc en quelque sorte figé, et c'est très bien aussi qu'il soit figé en papier dans une bibliothèque, pour en tirer d'autres débouchés d'audience ou d'autres débouchés économiques. Voilà. C'est ça que je voulais apporter sur ce point, parce qu'on entend beaucoup, comment dire, de déception. Et effectivement, vous savez que l'Internet vous ment. Hein. L'Internet vous annonce tout un tas de chiffres, vous pouvez les bénéficier par 10 ou par 100 si vous voulez toucher du bout du doigt la réalité. Ça, ça correspond aux coulisses de l'Internet, aux coulisses du mensonge, incontestablement, et si nous n'en sommes pas suffisamment conscients, eh bien, ça amplifie les déceptions.
Non, mais sur les succès, tu as parlé de Anna Todd avec After, qui était au départ une fanfiction One Direction, qui était publié donc sur des plateformes, hein, mais d'ailleurs peut-être sur Wattpad, hein, même. Voilà, donc et qu'on pouvait considérer comme un travail au départ collaboratif, parce qu'il y a eu des beta readers, voilà, et elle l'a publié ensuite. Mais si je ne m'abuse, le plus célèbre succès, c'est Fifty Shades of Grey. Au départ, c'était une fanfiction Twilight, alternate universe, ce qu'on appelle dans les fanfictions alternate universe de Twilight. Bien sûr, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'autrice.
James.
Ouais, voilà. Donc, elle avait publié sur fanfiction, hein, c'était fanfiction.net. Elle avait publié donc ses écrits. Et là aussi, c'était un travail collaboratif, hein, parce qu'il y a eu pléthore de bêta-readers et pléthore de modifications sur ses écrits. Et puis après, elle a décidé de le publier. Hein, donc, et ça a eu le succès que tout le monde connaît maintenant. Et alors, on parlait de procès tout à l'heure, mais là, c'est un procès symbolique à l'intérieur de la communauté, hein, puisque les fans l'ont exclu de la communauté des fans, hein, puisque, a priori, encore une fois, le travail des fans est un travail gratuit au départ. Donc c'est pas fait pour en retirer de l'argent, et voilà. Même si de plus en plus il y a une professionnalisation de la part des fans et que la fanfiction participe aussi de cette professionnalisation, hein. Beaucoup de fans se font la main, on va dire, en écrivant des fanfictions et essayent d'acquérir des compétences de plus en plus poussées en rédaction et en écriture, quoi.
Et est-ce qu'elle les a au moins remerciés à défaut de les faire participer à la rémunération, et
voilà, personne qui... Je ne pense pas. Ouais. Non, je ne crois pas.
Non, d'accord. Ouais. Non, mais donc, il y a plein de trucs assez problématiques, en fait. Hein. Et là, c'est plutôt dans l'autre sens, parce qu'on parlait de la pression lecteurs sur les auteurs, mais c'est vrai que moi, il me semblerait qu'il y aurait peut-être des dispositifs à inventer pour marquer, même si c'est pas à payer, mais marquer la reconnaissance symbolique des gens qui ont contribué, parce qu'en général, dans les livres, il y a tout à la fin, il y a des remerciements. Voilà, c'est vrai que... Il faudrait vérifier si elle a fait ça ou pas.
Moi, je crois pas. Hein. Non.
Ouais,
non,
je crois pas. Ouais. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. On avait plein d'autres questions qu'on avait envisagées dans la préparation de la table ronde. Je ne sais pas si Léa, tu avais soulevé un point autour des histoires d'intermédiation, des intermédiations. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Okay. Alors, il nous reste quand même quelques minutes, madame.
Je vais vous donner le micro.
Pardon, je suis maîtresse de conférence à l'Université de Paris 8 et je travaille beaucoup sur l'auto-édition depuis longtemps. J'ai eu l'occasion de rencontrer Cécile Terouane, qui est donc la responsable d'Hachette Roman. Et j'ai parlé beaucoup avec elle du partenariat qu'elle avait établi. Elle l'a établi, et ça existe encore, avec Wattpad Roman. Et elle m'avait bien expliqué que Wattpad ne fournit pas uniquement que le nombre de vues. Je n'ai plus en tête, je l'ai écrit dans un article, il n'y a pas uniquement le nombre de vues, il y a énormément de données qui sont fournis par Wattpad pour décider ou pas l'éditeur à publier le livre. Et il faut aussi voir inversement, Cécile Terouane m'avait donné l'exemple d'un ouvrage. Elle se posait la question, est-ce que ce serait bien de le publier, etc. Et en fait, Wattpad a servi de banc d'essai pour tester. Alors, il y a le mot « fusil ». Dans le titre, j'ai plus le titre en tête, ça a très très bien fonctionné sur Wattpad, et donc ils ont décidé au final de le publier, version papier, mais ils ont bien conscience d'une chose, c'est que voilà, les gens sont d'accord de ne rien payer, mais qu'après passer sur un autre modèle, avec donc un prix papier qui n'est pas zéro, c'est toute une autre logique. De la part du lecteur, en fait. Et il y a cette chose-là aussi. Et il y a une chose, c'est... il faut que... Là, je me suis intéressée récemment, je m'intéressais beaucoup aux plateformes, mais je m'intéresse aussi... Je m'intéresse au regard des éditeurs, parce que maintenant, on n'est plus dans la disruption de la part de l'auto-édition. Comment est-ce que le regard des éditeurs a évolué par rapport à l'auto-édition, etc. Et ce qu'ils me disent, c'est qu'on a en tête une ligne éditoriale. Si éventuellement ça rentre dans la ligne éditoriale, oui, pourquoi pas. Mais si le livre a énormément de succès, mais s'il n'a pas cette... je ne sais plus quel terme, une éditrice qui a utilisé un terme, il faut qu'il y ait une voix. Voilà, une voix. Mais c'est un terme un peu galvaudé. Hein. Oui, complètement, oui. Il faut qu'il y ait une voix, etc. Il y a toute une rhétorique de la part de l'éditeur, de l'éditrice, beaucoup d'éditrices dans les littératures de genre. Voilà, donc il faut faire la part des choses et Wattpad fournit bien d'autres éléments à l'éditeur qui s'intéresse. Que le nombre de vues et de téléchargements. Et je ne les ai plus en tête. C'est vraiment très. C'est une entreprise. Et donc il y a des partenariats assez forts, notamment entre Hachette Roman, Cécile Terouane. Mais pas uniquement.
Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, Hachette Roman agit autrement, parce que là je parlais de H-Lab, qui fait partie de Hachette, mais ils avaient vraiment plus le phénomène laboratoire, donc ils testaient beaucoup plus de choses. Et d'ailleurs, si on regarde la ligne éditoriale de H-Lab,
mais il y avait de tout. J'ai une de mes amies, Karine Del, qui avait une romance viking, qui était plutôt roman historique, très 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 renseignée, avec une plume extrêmement mature en fait. Pardon. Oui, oui, mais donc voilà, il y a ce truc de, il y a Hachette Roman qui a fait très très précis. Après, ils ont quand même ouvert chez Hachette cette nouvelle branche qui était dans le bureau juste à côté d'Hachette Roman et qui travaillait en collaboration. Et eux, ils avaient plus tendance à tenter des choses, ce qui était très cool parce que ça permettait à des nouveaux auteurs de se faire lire et de se faire publier. Mais d'un autre côté, il n'y avait pas vraiment de ligne édito, il n'y avait pas vraiment de travail et on se posait moins de questions. On tentait plus de choses, mais c'était au détriment d'autres principes. Et je tenais à rebondir sur le fait que Wattpad avait vraiment un rapport avec Hachette Roman, parce que je sais que pour le cas de Léa Nemesia, qui est une autrice maintenant chez Hugo Roman, mais qui a été publiée d'abord chez Hachette Roman, on avait parlé, parce qu'elle m'avait justement demandé comment s'était passé mon contrat, etc. Elle m'a expliqué qu'au départ, elle ne voulait pas du tout signer avec Hachette Roman, et c'est Wattpad qui est allé la voir et qui lui a dit « Oui, mais alors on va revoir... Exactement. » Et donc, ils ont revu l'aventure droit. Ils lui ont promis une signature avec les Wattpad Studios qui permettent potentiellement de se faire adapter ensuite. Et là, elle a accepté de signer avec Hachette. Donc, il y a vraiment tout un partenariat extrêmement travaillé.
Très rapidement, il y a une association qui fait la Quadrature du Net, peut-être que vous connaissez, hein, qui a essayé de militer pour l'utilisation des possibles de la fanfiction, mais il y a quand même un auteur qui est Damasio, qui a fait un concours de fanfiction pour ses fans, et puis en fait, qui a vraiment participé à la médiatisation de ça. Donc il estime qu'en fait, quand ces personnages vivent d'eux-mêmes sous la plume d'autres personnes, que c'est une reconnaissance. Donc il n'y a pas que ces postures absolument normatives de « mon personnage m'appartient et personne ne peut en faire autre chose ». Donc il y a aussi ça. Non, il est un peu à la marge, et après, les deux postures sont compréhensibles. Hein. C'est juste, voilà, petit ajout, évidemment, les deux postures auctoriales sont compréhensibles, évidemment.
Mais là, tu as des trucs à ajouter. Mais si,
tu connais bien.
Ah, d'accord. Oui, tout ce que je peux te dire, c'est que j'avais invité Mathias Echenel, l'éditeur de La Vote, que je connais très bien, à participer, mais finalement, il n'a pas pu participer. Alors, je demande même plus à Alain Damasio, que je connais bien aussi, parce qu'il est très très occupé, il est perdu au milieu de ses montagnes, enfin voilà, il est quand même très très difficile à déplacer. Mais j'avoue, j'étais même pas au courant de ce dispositif, mais ouais, je
2014,
sais...
C'est venu en 2014, ouais. 2015.
Mais je sais, enfin bon, pour faire un tout petit peu de publicité pour les éditions de La Volte, et on a en plus la chance, je sais pas s'il est déjà arrivé, d'avoir un auteur des éditions La Voix qui s'est inscrit à la journée en tant que spectateur, qui verra s'il finit par venir ou pas. Mais les éditions La Voix, hein, c'est alors c'est vrai que maintenant ça date, hein, puisque c'est une maison d'édition qui a une vingtaine d'années, mais il y a 20 ans, elle aurait pu participer à la table ronde, puisque en fait, c'est Alain Damasio qui avait écrit L'art de contrevent, qui a essayé de faire éditer, qui n'a pas réussi à le faire éditer. Et du coup, c'est Mathias Echenel, qui était un ami, qui a décidé de créer les éditions de La Volte, en fait, pour pouvoir publier ce livre, qui était une espèce d'ovni dans le milieu de la littérature de genre, et qui a eu, au final, un énorme succès, et qui, voilà, et qui fait d'Alain Damasio aujourd'hui un des principaux auteurs dans le genre des littératures de l'imaginaire, et il y a désormais autour de La Volte tout un vivier d'auteurs très intéressants, et il y a tout un dispositif dont on aurait peut-être pu parler à l'intérieur de La Volte depuis les origines, parce que c'est des éditions qui sont pensées sur un mode très collaboratif. Enfin, il y a des rencontres régulières qui s'appellent les encombrants dans différentes villes. Il y a des dispositifs qui sont inventés pour faire collaborer les auteurs ensemble, avoir des nouveaux entrants par l'intermédiaire d'appels à texte. Les gens peuvent proposer des nouvelles et parfois Et voilà, il arrive régulièrement qu'après avoir publié des nouvelles, publie d'autres. Voilà. Mais bon, il y aurait eu, en gros, il y aurait eu plein d'autres choses dont on aurait pu parler.
Merci, hein, c'était très intéressant. C'est plus un commentaire qu'une question, mais c'est une façon de vous demander comment vous pourriez rebondir là-dessus. En fait, ces dispositifs numériques qui permettent, disons, une massification de l'autopublication, comme les plateformes à Wattpad, à O3, on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai travaillé sur les deux plateformes, c'est pour reboucler avec la thématique hein, de la journée, sont vraiment des dispositifs qui permettent une démocratisation de l'accès à l'écriture de publics qui historiquement sont exclus en fait, de la création littéraire en particulier. Les femmes, bien sûr, puisque sur Wattpad et sur O3, ce sont les femmes qui écrivent. Historiquement, les autrices de fanfiction sont des autrices, hein, sont des femmes. Et puis, pour ce que moi j'observe aussi, donc on l'a dit aussi, hein, les publics, la communauté LGBT hein, qui s'est emparée de la fanfiction, quoi, historiquement. Et aussi, moi, pour ce que j'ai pu constater, en tout cas, là où j'en suis de mon travail sur Wattpad, les jeunes filles racisées, en fait, les jeunes filles racisées de classe populaire qui s'emparent de cette plateforme accessible, gratuite, etc., à la fois pour écrire les histoires qu'elles ont envie d'écrire, et souvent qui sont des histoires qu'elles ont envie de lire et qu'elles n'arrivent pas à lire en tant que lectrice, donc elles les écrivent. Ça traverse aussi l'histoire de la romance. Et qui utilisent ces plateformes comme stratégie pour se représenter, se voir représenter. Parce qu'il y a une diversité, même si je n'aime pas ce mot, mais il y a une diversité. De profils, de personnages, etc., d'histoires sur ces plateformes qu'on ne trouve pas dans l'édition traditionnelle. Donc il y a vraiment un lien là avec la démocratisation, avec la démocratie, hein, d'une manière générale.
Merci beaucoup, je te laisse la parole, mais juste alors effectivement, parmi les invités finalement pas là, sur la suggestion de Ruth, j'ai essayé d'inviter plusieurs personnes qui auraient pu mieux parler de ça, des autrices et des représentants de cases rebelles. Vous pouvez regarder sur internet ce que c'est, mais malheureusement on n'a pas pu venir, et donc merci du coup de parler de ça parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de parler de tout.
Ouais. Alors merci pour ton commentaire et ton commentaire question, Delphine, parce que moi je voulais, si j'avais dû faire un mot de conclusion, ce que je voulais dire c'était qu'il ne fallait pas dénigrer la fanfiction, parce que justement la fanfiction ça donne un espace de créativité, ça donne un espace d'écriture et un espace de visibilité aussi à des publics qui sont souvent invisibilisés, donc des publics féminins, des publics appartenant aux des publics LGBTQIA+, tu l'as dit, hein, des publics appartenant à ethno-racisés, voilà, donc ça c'est intéressant parce que ça leur donne un espace pour parler d'eux, pour rendre visible certaines sexualités, certaines appartenances ethno-raciales. Et je l'ai vu hein, souvent quand j'ai fait des analyses de communautés de fans en fait, hein, et sur les pratiques de ces communautés de fans. J'ai beaucoup travaillé sur les fans lesbiennes autour de séries télé, donc Grey's Anatomy par exemple, ou The Undead, bon, enfin, des séries, diverses séries. Et ce que je voyais, c'était que la fanfiction, ça leur permettait de rendre visible des sexualités qui n'étaient pas forcément canoniques, hein, à l'écran, quoi. Donc c'est assez intéressant hein, comment ces publics s'emparent en fait des personnages encore une fois, et que ces personnages vont être leviers d'engagement, un levier de créativité pour montrer en fait des appartenances ethno-raciales, des sexualités qui sont souvent invisibilisées. Donc en ça déjà, je pense qu'il ne faut absolument pas dénigrer la fanfiction parce que ça donne cet espace de créativité, cet espace de visibilité.
Le jeune public auteur, il n'existe pas en fait, dans le monde de l'édition. Le jeune public auteur, hormis, commence à être vu, mais les jeunes auteurs autrices qui ont entre 15, 16, 17 ans, en fait, elles n'existent pas dans le monde de l'édition. Hein.
Et à travers la fanfiction, effectivement, elles existent. Et souvent, je l'ai vu sur Harry Potter, souvent, ces jeunes autrices, quand même, vont devenir mentors d'autres autrices qui rentrent dans la communauté. Et donc, il y a ces phénomènes de mentorat qui se mettent en place. Et ce sont souvent par des adolescentes. Donc, ça donne aussi cette inventivité, cette créativité, quoi.
Très bien. Alors, il va falloir conclure, malheureusement. Donc, est-ce que je ne sais pas si vous voulez, parce que Mélanie vient de s'exprimer, mais si vous voulez ajouter quelques mots de conclusion, parce que finalement, Mélanie a proposé sa conclusion. Et puis après, on va clore.
Vas-y. Alors, Léa est inspirée.
Je reviens très très rapidement sur. On a parlé de la fanfiction, du coup, dans ce principe. Mais en fait, je pense que vous pensiez au phénomène des chroniques aussi, je ne sais pas. Parce que les chroniques, c'est très connu justement que c'est des autrices racisées, ouvertement racisées, qui donnent leur religion, les lecteurs réagissent, il va y avoir tout un phénomène d'identification, etc. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'autant les fanfictions, même si elles peuvent être dénigrées, trouvent quand même un public, trouvent quand même une forme de consécration, sont publiées. Les chroniques, par contre, aucune consécration autre que le public des chroniques, n'ont aucune... publication quelle qu'elle soit, alors qu'elles font des 15 millions de vues, 20 millions de vues, mais c'est complètement fermé. Donc je voulais ajouter quand même cette petite parenthèse.
J'en reparlerai tout à l'heure dans la prochaine table ronde.
Allez.
Pour conclure, moi je dirais que l'art, en tout cas en écriture, parce que c'est mon domaine d'activité, est vraiment riche et varié. Mais qu'il y a malheureusement certains blocages, notamment commerciaux. Moi, je l'ai vu, j'ai eu des rendez-vous avec des distributeurs qui ont analysé du coup plusieurs livres que j'ai écrits et que j'ai dit, et qui m'ont dit, mais vous savez, vos plumes sont toutes très différentes, on ne pourra jamais toucher qu'un seul lectorat. Oui, j'ai des plumes qui sont avec des phrases très longues, je vais même éditer de la fantaisie en vers, parce que j'adore ça, donc effectivement, je leur ai dit, oui, effectivement, voilà, ce sera leur lecteur 1, ne pourra peut-être pas acheter tous les livres de Corps de Lune parce qu'ils sont tous très différents. Et donc ça a été des discussions un petit peu houleuses sur des valeurs voilà, que moi j'ai, que l'art est vraiment multiple, ça reprend aussi tout ce qui est fanfiction et tous les différents fans. On a tous des plumes, des choses à dire, et que c'est dommage qu'aujourd'hui, à cause de la commercialisation, de ce qu'on fait de l'art aujourd'hui, qu'on oublie qu'on a tous une voix, une âme différente, et que c'est ça qui rend le monde beau aussi, et que chaque livre a quelque chose à dire, à partager. Et voilà, c'est ça que je voulais conclure. On est tous différents, on a tous des écritures, tous des univers, et ils valent tous la peine d'être lus, même si on n'a pas beaucoup de public, même si on n'a qu'un seul lecteur, ils valent la peine d'être découverts.
Alexandre,